Voilà, j'ai trois textes à vous proposer ce matin dans Hébreux 11. Hébreux 11. Alors, Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un bon témoignage. Et c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et dans Hébreux 12, au chapitre 12, verset 1er, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et une dernière lecture, décidément, déjà Yves l'a lu ce matin, on le relit dans Romains 12. « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, votre corps, votre âme et votre esprit, et de consacrer vos forces et toutes les facultés qui sont mises à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte et digne d'être agréée. Ainsi, toute votre vie servira Dieu. C'est là le culte nouveau qui a un sens, un culte logique, conforme, à ce que la raison vous demande. » Voyez-vous, j'insisterai sur ce point de ce verset qui dit que c'est ainsi, donc on est dans une conclusion, hein, c'est ainsi que votre vie servira Dieu. Quels sont ceux qui veulent servir Dieu? Voilà, donc ça nous concerne. Comment pouvons-nous servir Dieu? Il y a toute une manière de voir le service. Servir, moi, vous voyez, on interprète souvent les choses par la mentalité dans laquelle on se trouve. Moi, je me suis converti à 20 ans, j'étais catholique, très, très engagé dans le catholicisme, je servais Dieu dans cette religion où j'étais servant de messe, j'étais très engagé en tant qu'étudiant un peu partout. Et quand je me suis converti, tout naturellement, le service qui m'est apparu évident, c'est d'aller dans un monastère. Donc j'ai encore mon journal que je rédigeais quand je me suis converti. J'étais la première année des arts et métiers. Avec des étudiants qui pensaient tout à fait autre chose qu'à la foi, et j'ai vraiment, voilà, j'ai eu une expérience d'illumination très forte avec le Seigneur, et la première chose, c'est de dire: Seigneur, je veux te servir. Et pour moi, le service, voilà, c'était aller dans un monastère, c'est de se retirer, vraiment de tout donner, sa vie, etc. Et on interprète la manière de servir en fonction de ce qu'on connaît. Le Seigneur m'a arrêté, il m'a dit: non, tu serviras tout en travaillant. Donc dès le départ, je savais que je devais continuer mes études et travailler. Mais ce n'était pas du tout mon choix premier. Voilà. C'est pour montrer que notre système d'interprétation de ce que Dieu nous dit, ou de la parole que nous lisons, est dépendant de notre, ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire une manière de penser, qui est un rail de pensée. On ne peut pas faire autrement que de penser comme ça. Donc il faut analyser ce rail de pensée. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est biblique? Est-ce qu'il vient de Dieu ou pas? Parce que ce rail va forcément nous entraîner vers des conclusions qui sont liées au rail. Si le rail, vous avez le rail de chemin de fer, c'est facile à imaginer, il vous emmène à Rouen, vous arrivez à Rouen. Vous n'arrivez pas à Strasbourg. Vous choisissez le rail. Donc c'est important. Alors, je suis désolé parce que le Seigneur ne m'autorise pas encore à changer d'orientation pour mes messages, parce que au fur et à mesure que les semaines passent, le Seigneur me fait approfondir pour moi des choses que j'imaginais pas encore au mois de juin. Vous voyez, au mois de juin, j'étais pas dans cette réflexion sur les réveils. Et quand le Seigneur m'a rappelé cette frise que Luc Maroni nous a donnée, qui rappelle les réveils, j'ai découvert quelle est l'identité, quelle est mon identité, quelle est notre identité. Et quand on connaît son identité, vous savez, il y a eu tout un débat sur l'identité française, hein, qui d'ailleurs a avorté, parce que voilà, pour se mettre d'accord, c'est pas évident, sur l'identité. Mais nous aussi, quand on fait une réflexion sur notre identité, donc ça rejoint ce que je disais, qui on est profondément, ça va nous conduire à prendre des actions en fonction de cette identité qu'on a en tête. Je l'appellerai autrement, c'est un modèle. Vous voyez, on a besoin d'un modèle. Alors, habituellement, et ce qui est vrai d'ailleurs, on dit que notre modèle chrétien, c'est Christ. Mais comment est-ce qu'on traduit ce modèle Christ dans la vie pratique de tous les jours? C'est ça la question. Parce que Christ, c'est un homme qui a vécu, qui est fils de Dieu, fils de l'homme, qui est mort, ressuscité, qu'aujourd'hui on ne connaît que par l'action du Saint-Esprit en nous. Donc comment est-ce que l'identité en Christ, comment est-ce qu'on la traduit? Très souvent, et c'est ça que je voudrais vous passer comme message, c'est qu'on vit notre vie chrétienne en fonction de ce qu'on a appris, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec notre église d'origine, que ce soit de là où on vient, et on importe cette façon de voir en disant qu'on vit en Christ. Mais en fait, la réalité est tout autre. Et c'est aussi comme ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans les églises, parce qu'on voit les choses différemment. Donc quand le Seigneur m'a montré d'analyser ces réveils, parce que nous voulons tous un réveil, hein. Les chrétiens aspirent tous à des réveils, donc c'est une préoccupation qui est légitime. Et bien quand on aspire à un réveil, l'idée c'est quand même de voir comment les réveils précédents sont passés, parce qu'on ne descend pas de Mars, hein. on descend quand même des êtres humains, et donc des êtres humains, ça ne change pas comme ça, à part les technologies, l'iPhone 7, ça n'existait pas encore il y a quelques mois, je suis d'accord, mais ce n'est pas l'iPhone 7 qui va changer la nature humaine. Donc on peut voir les réveils comme quelque chose qui peut nous apprendre comment les choses se passent pour ceux qui veulent rentrer dans la présence de Dieu. Et comment on peut rester dans la présence et comment on peut sortir de la présence de Dieu. C'est surtout ça qui est important, c'est de rester dans le réveil. Alors il y a certains réveils qui étaient des très très grands réveils, comme le réveil du Pays de Galles en 1904, qui n'ont duré que 3 ans et demi. Tout le monde est désolé parce que c'est un réveil qui a impacté beaucoup de monde et beaucoup de pays. Et donc on peut se poser la question, pourquoi ce réveil Pays de Galles avec Evan Roberts n'a duré que 3 ans et demi, alors que d'autres réveils, et je ne savais pas avant le mois de juin de cette année, que le réveil qui était provoqué par John Wesley a duré plus de 100 ans et d'ailleurs a continué derrière lui. Ce qui est assez rare, parce que souvent ça s'écroule après la mort de celui qui est à l'origine du réveil. Donc ça m'a interpellé, et j'ai creusé un peu la question de ce personnage de John Wesley. C'est un peu l'origine. Donc il est au milieu du pavé vert qui est là, qui est le 18e siècle, où John Wesley a vécu. Je voudrais revenir sur la foi, parce que le modèle que John Wesley a développé, qui d'ailleurs n'a pas du tout été un modèle de théologie, il n'était pas théologien, mais dans ses sermons, paraît-il, il en a fait plus de 50 000 dans sa vie, et il a prêché pendant 60 ans, on a tiré effectivement cette théologie plus tard, 2 siècles après, vous voyez. Au XXe siècle, quelqu'un qui s'est penché sur ses sermons, un vrai théologien méthodiste, qui en a tiré un peu la substantifique moelle, comme on dirait, pour développer ce modèle qui était le sien dans ses prédications. Et qu'il exhortait donc ses chrétiens, d'une part anglais, mais aussi américains, puisqu'il a créé aux États-Unis l'Église méthodiste, eh bien, c'est ce modèle qui est le modèle du Christ, mais sous forme, disons, opérative, quelque chose qui aide pratiquement à vivre la foi chrétienne. C'est ça qui m'a interpellé. Donc, je vous le rappelle, hein, que c'est ce qu'on appelle le quadrilatère, puisqu'il y a quatre côtés, quatre dimensions, quatre aspects de la foi chrétienne. Donc, ça concerne la foi chrétienne, et comment cette foi chrétienne peut s'appuyer sur un modèle qui est le modèle du Christ. Donc, ce théologien qui s'appelle Outler aux États-Unis décrit ce quadrilatère comme quoi l'essentiel de la foi chrétienne est révélé dans les Écritures. Donc on a la révélation. Excusez-moi, j'écris pas très bien. Dans les Écritures. Révélation dans les Écritures. Donc ça, c'est un premier élément où la base de la foi est dans les Écritures. Ensuite, après, le deuxième élément, c'est que la foi est éclairée par la tradition. Ensuite, elle est vivifiée par l'expérience. Et le dernier élément du quadrilatère, voilà, alors c'est confirmé, c'est important les verbes, hein, parce que la raison en elle-même, justement, on va en parler un petit peu. Si j'arrive à ouvrir ça, ça va. Voilà. Je l'écris en vert parce que c'est un peu particulier. Donc confirmé, par la raison. Voilà. Alors, en regardant bien ce quadrilatère, je me suis aperçu qu'il a deux dimensions. Il a quatre côtés, mais il a deux dimensions. Et ces deux dimensions, en fait, je me suis aperçu que quand on regarde un petit peu l'être humain et les questions qui se posent depuis des millénaires, depuis qu'il existe, il y a deux questions essentielles qui taraudent l'individu. Et encore récemment, je parlais avec Elsa, effectivement, on a les personnes qui ne croient pas en Dieu, en fait, ils se posent tous deux questions. Et c'est ces questions-là, bien sûr, auxquelles ce modèle répond, puisque c'est Christ le modèle. Et ce modèle donc a deux axes, un axe vertical et un axe horizontal. Voilà. Un axe qui va de la terre vers le ciel et qui est l'axe de ce qu'on appelle transcendance, c'est-à-dire qui traverse. Le français est issu du grec ou du latin, donc c'est l'un ou l'autre. Donc ça traverse, hein, de la terre vers le ciel. Donc il y a une aspiration vers Dieu. Hein. Transcendance, c'est on cherche un absolu. Alors ceux qui veulent pas parler de Dieu, ils parlent d'absolu, ils parlent de quelque chose qui nous dépasse. Hein. Mais pour nous, c'est Dieu, bien sûr, qui est visé ici, le tout autre, celui qui n'est pas de la création. Là, c'est de la création. Là, c'est Dieu qui est au-delà et vers lequel notre âme a besoin de s'unir pour avoir du sens, donner du sens à notre vie. Le deuxième axe, ici, c'est l'axe de l'histoire. Nous avons tous une histoire, individuelle, mais aussi collective. Adam, premier homme, et il y aura une fin. Donc la Bible parle d'une fin de l'humanité, tout en parlant d'une immortalité de l'humanité, donc une fin qui n'a plus de fin. Donc voilà, il y a quelque chose à trouver ici pour expliquer l'axe de l'histoire. C'est ce que George Ladd a fait en 1974 avec la théologie du Nouveau Testament, parce qu'il avait des outils. On l'appelle en théologie des outils d'analyse historico-biblique, donc historico-critique, qui permettent effectivement l'analyse des Écritures, d'expliquer ce qu'on appelle aussi l'eschatologie, puisqu'en grec, l'eschaton, c'est la fin. Donc, les éléments de la fin. Comment est-ce qu'on finit ? Le devenir, si vous voulez, de l'homme. Et ça, c'est une question que tout le monde cherche à résoudre. Et si vous les témoignez, si vous touchez ces deux points, vous êtes obligé de faire mouche. Parce que c'est des questions qui se posent, que se posent les gens. Donc voilà ce modèle sur lequel nous appuyons. Alors tout d'abord la foi. C'est le modèle de la foi. Alors c'est le modèle de Christ. C'est le modèle de la foi. Suivant les aspects qu'on regarde les choses. La foi. Nous avons lu deux textes. Ces deux textes concernent justement ces deux axes. Le premier texte que nous avons lu, dans Hébreux 11, il est dit que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui ne provient de ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Nous voyons que la foi, on peut penser à croyance, foi c'est croire. Mais je voudrais plus vous amener dans la compréhension que la foi, c'est une confiance. C'est une confiance. Quand on a la foi, on a confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Or, en qui a-t-on confiance ? Voilà, c'est toute la question. La confiance, on peut la donner à Dieu, si on est dans ce modèle de transcendance où Dieu est au-dessus et gère toute chose. Ou on peut avoir une confiance en soi. Et c'est les deux opposés. On a confiance en soi, donc on prend les choses en main soi-même, par tout un tas d'outils rationnels la plupart du temps, pour gérer tout ce qui est matériel, tout ce qui est... Mais comme nous savons par la foi que tout ce qui est matériel vient de ce qui est invisible, et nous savons que c'est bien de la parole de Dieu, eh bien nous mettons notre foi en Dieu, et pas la foi en nous. Ce qui fait que la raison qui est là, très vite, quand vous avez cette orientation, vous ne vous appuyez pas sur la raison elle-même. Parce que la raison qui devient une idole devient du rationalisme, selon notre fameux ami Descartes, qui l'a bien défini dans son Cogito Ergo Sum. Mais la raison... J'ai mal dit, non ? Non, je ne suis pas latiniste, alors. Là. Je pense donc que je suis. Le cogito, on appelle ça le cogito. Voilà. La raison, vous voyez, ce modèle, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'il n'exclut pas notre humanité. Souvent, dans un modèle chrétien, dont parle le Christ, on pense au ciel, on pense à la spiritualité, on pense au spirituel. C'est vrai que le spirituel, il est là. Ici, c'est le monde invisible, ici, c'est le monde visible. Donc, le monde visible est fait par le monde invisible, donc tout ce qui est invisible, mais donc ici, nous avons besoin de la révélation pour croire dans des choses qui nous sont révélées. Donc là, c'est absolument indispensable que les Écritures, d'ailleurs, sont le pivot de ce modèle. Ce modèle, d'ailleurs, est aussi présenté sous une autre forme par Hautler. C'est un modèle du trépied. Vous savez, un trépied qui a trois pieds. Il est toujours stable. D'accord ? Modèle à quatre pieds, s'il y a un pied qui est plus petit, il va boiter. Mais un modèle trois pieds, c'est toujours stable. Et ce modèle, on peut le présenter à trois pieds pour montrer l'importance des Écritures. Ici, c'est les Écritures. Ici, c'est la tradition, l'expérience et la raison. Donc, il y a une subordination. Une subordination de la tradition, de l'expérience et de la raison, toujours aux Écritures. Ça, c'est le principe de la réforme protestante, d'ailleurs, qui a réformé l'Église, qui, elle, mettait autant de poids sur la tradition que sur les Écritures, ce qui est aujourd'hui et toujours le cas. C'est la théologie catholique dit que la tradition de l'Église, qui en fait vient du mot transmission, transmission orale, mais qui peut être écrite aussi, transmission. Et la transmission orale, la tradition catholique, des dogmes, etc., qui sont affirmés, ont autant de valeur que l'écriture. Donc l'écriture ne peut pas être soumise à la tradition, puisque la tradition et l'écriture sont du même poids d'autorité. Okay. Parce que la réforme protestante, donc 16e siècle, elle a bien dit que c'est les écritures qui sont révélées et qui sont sans faute. Parce que, d'une part, Jésus les a citées. Quand Jésus citait les écritures dans son temps, les évangiles ne les ont pas écrits. Parce que les évangélistes ont écrit la vie de Jésus après sa mort, sa résurrection. Donc Jésus citait l'Ancien Testament, les Écritures. Et il le citait sans arrêt, et en particulier aussi aux disciples d'Emmaüs, où il leur a révélé les Écritures. Et leurs cœurs ont commencé à être touchés par la grâce de Dieu et s'éveiller à la foi. Ensuite, Pierre aussi dit qu'il n'y a aucune parole qui n'a été écrite, qui n'est inspirée de Dieu, qui est utile pour le chrétien. Donc vous voyez que les Écritures, c'est le sens de la réforme de l'Église catholique qui est devenue la réforme protestante. C'est sola scriptura, seules les Écritures. Donc dans le modèle que Wesley a développé, on est tout à fait dans ce modèle de la réforme protestante. Mais il inclut quelque chose, et en particulier la raison, dans le sens où la raison est plutôt reléguée à quelque chose de mauvais par rapport à la foi. Or, ce modèle de foi, c'est-à-dire la confiance, c'est la confiance d'une part dans les Écritures, révélation des Écritures, c'est la confiance dans ce que la tradition, alors il faut savoir quelle tradition on parle, hein, parce qu'il y a plusieurs traditions, que la tradition va éclairer les Écritures, parce que les personnes qui nous ont précédés ont une certaine connaissance de la foi des Écritures. Donc ça, c'est important pour éclairer. Là, c'est important pour vivifier, parce que l'expérience, sans l'expérience, il n'y a pas de relation. Okay, si vous avez... aujourd'hui, bien sûr, on a beaucoup Facebook, hein, mais bon, je vous défie d'avoir une vraie relation avec Facebook. Si vous ne voyez pas la personne, à un moment donné, les gens qui veulent vraiment se connaître, ils disent, bon, maintenant, on va fixer un rendez-vous pour se connaître. Okay. Bon. Donc vous voyez, la relation passe par l'expérience personnelle d'une rencontre. Et c'est ce qui se passait avec John Wesley en 1738, où, grâce sur un bateau qu'il ramenait des États-Unis en Angleterre, il a été confronté à des Moraves qui connaissaient personnellement le Seigneur et qui l'ont confronté avec sa vie de foi pour qu'il puisse avoir une expérience qu'il a fait d'ailleurs avec son frère Charles un jour de Pentecôte mémorable qui l'a fait devenir effectivement un chrétien tel qu'il l'a été. Mais on y voit aussi la raison. Mais vous voyez que c'est confirmé. La raison confirme les Écritures, hein, confirme la foi, confirme. Donc, mais la raison est importante parce qu'elle donne la dimension humaine aux chrétiens. Alors je reviens sur la tradition. Il y a plusieurs traditions. Je parlais tout à l'heure de la tradition catholique, qui est en fait des dogmes qui imposent au peuple, qui imposent aux croyants de l'Église catholique à croire des choses. Même s'ils ne le comprennent pas, il faut qu'ils croient. Par exemple, la Sainte Cène, qui est l'Eucharistie, il faut qu'ils croient que le pain devient réellement le corps. Il faut qu'ils croient que le vin devienne réellement du sang, hein, ce qu'on appelle la transsubstantiation. Hein, vous voyez, c'est aussi du trans quelque chose, la transsubstantiation. Elle change de substance. Substance ordinaire devient le corps et le sang du Christ, voilà, qu'on comprend. Mais je me suis un peu amusé il y a quelques années où il y avait cette explication d'un vicaire général des Yvelines sur cette transsubstantiation où il a sorti des cuillères en bois et des cuillères ordinaires pour montrer, pour expliquer aux gens ce que c'est que la transubstantiation, c'est que le métal se change en bois, voilà. Je ne sais pas si ça leur a parlé plus. Ce qui fait que, à la fin de son explication, il y a un vieux monsieur qui lève la main en disant, monsieur le vicaire général, comment ça se fait que quand moi j'étais petit, on nous disait de ne pas croquer l'hostie parce qu'il y a le sang qui va couler. Alors, il était un peu embêté, mais je pense que c'est la première fois qu'il a eu la question. Donc, du coup, il a navigué en disant « Oui, mais vous savez, maintenant, on a changé. Voilà, on a changé, c'est plus ça. » Bon, le pauvre monsieur, il était un peu bête. Parce que, du coup, le dogme a changé, mais sans que ce soit écrit. Hein, le dogme est toujours le même. Mais bon, l'explication a changé parce que ça passe plus trop. Et que maintenant, voilà, on peut le croquer sans que le sang sorte. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des dogmes humains qui ne tiennent pas par rapport aux Écritures. Donc il faut faire très attention à la tradition. Concernant la tradition, je vous proposerai tout de suite la tradition que je préconise, hein, tradition qui est bonne. La tradition, pour ma part, hein, sans rentrer dans les détails de ce qu'il ne faut pas croire, hein, la tradition, je pense qu'elle doit être d'abord hébraïque. Pourquoi ? Parce que Dieu a choisi un peuple, le peuple hébreu, qui était, voilà, Abraham, il était sorti d'Ur en Chaldée, etc. Mais il l'a choisi, et il a été élu, ce peuple, et Dieu lui a parlé, et il a repris. Hein, rappelez-vous, les juges, les rois, etc. C'est pas qu'il était parfait, ce peuple, mais il lui a parlé, il l'a repris, il a envoyé des prophètes, etc. Ce qui fait qu'il a modelé une forme de pensée. C'est une forme de pensée. Et la forme de pensée hébraïque dans laquelle l'écriture est donnée, ça change totalement l'interprétation. Parce que là, on est dans ce qu'on appelle l'interprétation, ou l'interprétation des écritures, qu'on appelle aussi en langage théologique herméneutique, qui vient d'ailleurs d'Hermès, un dieu grec, un dieu égyptien. Comment est-ce qu'on interprète l'écriture ? Eh bien, c'est par une forme de pensée. Et si la forme de pensée que vous avez n'est pas hébraïque, vous ne pouvez pas correctement interpréter les écritures. Je m'explique. Il y a essentiellement deux formes dans l'Antiquité, la forme hébraïque et la forme grecque de pensée à l'époque. Gréco-égyptienne, si vous voulez. Et la différence fondamentale, et ça c'est le monde, hein, qu'on a hérité aussi nous-mêmes, puisque Michelet a dit que Athènes est venue à Paris dans les années 19e siècle. Donc le monde grec, lui, il dissèque les choses. Voilà. Ils aiment bien la dissection. Ils aiment bien séparer les choses pour les analyser, etc. Donc tout est séparé, tout est disséqué. Dans la pensée hébraïque, rien de tout ça. On pense de manière globale. Et ce qui fait que les Hébreux, ils expliquent en tournant un petit peu les choses. Par exemple, les rabbins, quand ils expliquent une vérité, voilà leur théologie, ils tournent un petit peu en rond autour de la question, parce qu'en fait, ils ne dissèquent pas. Nous, on aime bien disséquer. Moi aussi, j'ai été élevé dans cette conception un peu rationaliste et rationalisante, hein, où on aime qu'un problème, hein, comme on dit, manger un éléphant, bah, le mieux, c'est de le découper en morceaux et le manger au fur et à mesure. C'est plus facile. Donc, la dissection d'une chose complexe, c'est vraiment un outil très important. Mais si vous le faites dans le cadre biblique, en fait, vous tombez dans les travers de ces philosophies grecques. Les philosophies grecques, ils dissèquent effectivement les choses et ils essaient de les expliquer de manière avec la raison. C'est ça le gros défaut de cette analyse de pensée grecque. C'est pour ça que jusqu'au XXe siècle, et je parlais... Donc le XXe siècle, c'est la fin de la frise, là où commence le 2, là, juste la fin. Eh bien, il y a un théologien qui s'appelle George Eldon Ladd, qui effectivement a sorti la théologie du Nouveau Testament, du royaume de Dieu. Et ce théologien, lui, a décortiqué pour démonter les critiques qui ont été faites sur l'évangile de Jean. Parce qu'en fait, dans ce quadrilatère, si vous voulez, vous avez une correspondance. Hein. Ce modèle est très complet, parce qu'il renvoie à beaucoup de choses, à beaucoup de révélations. Par exemple, la révélation d'Ézéchiel, quand il a vu dans le ciel les quatre êtres vivants qui soutiennent le trône de Dieu, donc qui apportent la gloire de Dieu, c'est pour ça que ce modèle est fait pour apporter la gloire à Dieu. C'est pour ça que ça donne du sens à notre vie. Et comme on l'a lu tout à l'heure, ça permet de servir Dieu. Si nous vivons ça, nous pouvons servir Dieu avec du sens qui va dans le sens de l'histoire qu'il nous donne. Vous voyez, c'est très très puissant. Mais cette vision quadruple, hein, ou tétramorphe, tétra c'est 4, quadruple c'est latin c'est 4 aussi, c'est tout est 4, c'est cette vision qu'Ézéchiel a vue dans le ciel, Ézéchiel chapitre 1er, où il a vu ces êtres vivants qui soutiennent le trône de Dieu. Et ils ont chacune 4 faces, une face d'homme, une face de bœuf, une face d'aigle et une face de lion. Et ces caractéristiques de ces animaux, de ces visages, renvoient à ce modèle. Je ne reviens pas là-dessus, parce que je vais m'égarer dans trop de choses. Mais j'en ai déjà parlé. Deuxième renvoi de ce modèle, c'est les 4 évangiles. Pourquoi 4? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 6? Parce qu'il y en a une vingtaine d'évangiles, puisqu'on les a trouvés en 1945 dans une grotte, qui sont écrits et qu'on a sortis, et qu'on connaît maintenant sous forme de tous ces évangiles qui sont apocryphes. Apocryphes, ça veut dire qu'ils ne sont pas reconnus par le canon juif comme étant inspirés. Ils sont à moitié inspirés, mais à moitié humains. Oui. Donc, il y en a 4 qui ont été retenus par un des premiers évêques en France, qui s'appelle Irénée de Lyon, au 1er siècle, qui en a retenu 4. Et il a défendu cette thèse de prendre ces 4 évangiles comme étant le fondement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça renvoie à 4 caractéristiques, 4 ministères de Jésus. Et ces 4 ministères de Jésus, donc ici vous avez Luc, ici vous avez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans ce sens-là, c'est plus facile à retenir. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et depuis 2000 ans, tous les commentateurs bibliques, eh bien, ils tirent sur Jean. Ils tirent sur Jean à vue. Voilà. Alors, si j'avais du rouge, mais j'en ai pas, je mettrai ici. Voilà. L'évangile de Jean. Est-ce que vous avez déjà été interpellé par l'évangile de Jean? Oui. Dans quel sens? Profondeur. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose de différent dans l'évangile de Jean. Une profondeur, une sorte de... Pardon ? Divinité, etc. Enfin, voilà, une autre... Voilà. C'est-à-dire, c'est toujours présenté la bonne nouvelle, hein, puisque Matthieu, Marc, Luc et Jean présentent la personne de Jésus. Hein, et c'est le fondement de la foi chrétienne. Mais Jean est dans une autre tradition, hein, puisqu'on parle de tradition, et dans une autre tradition, il emprunte des langages, le langage grec, pour exprimer la bonne nouvelle. Et c'est ça qui a complètement perturbé les commentateurs bibliques. Hein. Tout cela, ils utilisent la langue hébraïque dans laquelle ils sont nés, et parce que c'est des juifs, hein, et particulièrement Matthieu, hein, qui n'ose même pas prononcer le mot de Dieu, Yahvé, puisque c'est interdit dans la Bible, donc il dit le royaume des cieux, au lieu du royaume de Dieu. Dieu ne peut pas le prononcer. Donc dans Matthieu, quand vous lisez le royaume des cieux, c'est marqué partout royaume des cieux, c'est royaume de Dieu, c'est la même chose, hein, sauf qu'il n'a pas le droit de prononcer, parce qu'il s'adresse à des juifs. Marc, Luc, c'est pareil, ce sont des juifs qui s'expriment de manière juive, qui est effectivement la bonne tradition. Pardon. Et on s'est toujours posé la question, pourquoi Jean utilise un langage grec? Et pendant 2000 ans, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé, si ce n'est que de l'accuser d'évangile gnostique. Alors, L'évangile gnostique, enfin la gnose, c'est important que vous le sachiez, c'est quelque chose qui est apparu dans Genèse au moment où Satan a cherché à séduire l'homme. Ah, j'ai toujours des problèmes pour voir ces trucs. Voilà. Donc le gnosticisme, voilà. Je dis ça parce que c'est l'ennemi numéro un de tout le christianisme, de toutes les églises. Si vous voulez connaître un ennemi, ne cherchez pas Satan, c'est le gnosticisme. Ça a toujours été reconnu par les pères de l'Église, par tout le monde. Et aujourd'hui, le gnosticisme ne fait que grandir pour détruire la foi chrétienne et les églises chrétiennes. Le gnosticisme, ça vient de gnose, ou gnosis, si vous voulez, qui veut dire tout simplement connaissance. C'est une connaissance cachée. Et là, on est dans une connaissance révélée, dans une connaissance cachée. Qu'est-ce qui donne des connaissances cachées ? Il y a le serpent, et derrière le serpent, il y a Satan. C'est une forme de Satan. Donc, le serpent qui donne une connaissance. Et la femme est particulièrement instrumentalisée, puisqu'il s'adresse à la femme pour ensuite, après, faire tout chuter l'homme et l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi Paul... Alors ça, c'est une des explications de la mauvaise traduction dans toutes nos Bibles, quelles soient anglo-saxonnes ou françaises, de 1 Timothée 2,15, où Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Ben, ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout. Si vous savez pourquoi Paul a écrit ça, vous comprenez que ce n'est pas du tout ça qu'il fallait traduire. Parce qu'effectivement, cette gnose n'est pas vraiment connue avant 1945. C'est très précis. C'est l'explication. En 1945, on a découvert, comme je vous l'ai dit, dans les grottes, des jarres. C'est des jarres très, très grandes, dans lesquelles il y avait des rouleaux. Et dans ces rouleaux, il y avait ces fameux évangiles qui sont rejetés par la foi chrétienne, mais qui servaient à enseigner ces gnoses. Et ces gnoses disaient que Ève est née avant Adam. Et c'est pour ça que Paul dit, je ne permets pas que la femme, parce qu'il y avait bien sûr des docteurs masculins, mais qui enseignaient aux femmes, qui s'introduisaient dans les églises et qui enseignaient ces choses dans les églises. Et ça, Paul s'est refusé à ça parce que ça détruit totalement la foi chrétienne. Et donc l'idée, c'est de dire que Ève est née avant Adam, parce qu'avant Adam a été endormi par Dieu, il a pris une côte, il a créé la femme, et la femme a réveillé Adam. Donc la femme est première, elle est avant Adam. Vous voyez, c'est tordu, mais ça c'est l'enseignement de base. Et tout ce gnosticisme, c'est fait pour détruire la foi chrétienne. Et aujourd'hui ça s'infiltre dans les églises, mais ça c'est un autre développement. Pour revenir à la tradition, donc on pensait que Jean était gnostique, que Jean adhérait à cette forme de gnosticisme, parce que c'était grec, gréco-égyptien, qui enseignait ces gnoses. Et donc on a dit, Jean, non, il est gnostique. Et c'est pour ça que les francs-maçons, vous allez dans n'importe quelle loge, même s'il n'y a rien qui est fait dans la loge, vous allez dans une loge vide, hein, quelqu'un vous montre une loge, vous allez voir, et il y a une Bible, et c'est l'évangile de Jean qui est ouvert, le prologue en particulier, le logos. C'est là que c'est ouvert. Ils sont tous fondés sur l'évangile de Jean, sur le logos, sur la raison, justement. Et donc vous voyez, la Bible, on peut l'utiliser à n'importe quelle fin. Hein. C'est pas parce que quelqu'un utilise la Bible, vous ne faites pas avoir avec ça. C'est pas du tout l'usage de la Bible qui est une garantie que c'est une bonne doctrine. Voilà. Pour faire rapidement, George Ladd, qui a été au bénéfice de ces découvertes, en fait, il a démonté le subterfuge de croire que Jean était gnostique pour montrer que Jean voulait contrer le gnosticisme, justement, voulait montrer l'erreur que les chrétiens soient à l'abri. Donc, si vous lisez l'évangile de Jean, vous pouvez être équipé pour vous prémunir de cette gnose qui maintenant s'appelle Nouvel Âge. Mais c'est la même chose, c'est gnostique. C'est un syncrétisme entre le christianisme et toutes les philosophies du monde. Plus grec, mais c'est hindouiste, bouddhiste, tout ça. Enfin, tout est mélangé. Donc, du coup, c'est une gnose qui est mondiale. Hein. Avant, elle était moyen-orientale. Et Jean, donc, base son argumentation sur la raison, le logos, qui s'incarne. Et là, c'est génial, c'est fantastique. Ça montre que Dieu n'est pas contre ce qui est matière, parce que dans la philosophie grecque, ici, non seulement ils dissèquent, mais ils opposent, c'est-à-dire ils font du dualisme, ils disent que tout ce qui est au ciel, c'est bon, et sur la terre, c'est mauvais. Oui. Donc il y a une opposition entre le ciel et la terre, et une opposition entre la matière, donc le corps fait partie de la matière, et l'esprit, etc., etc. Et à partir de cette philosophie, cette théorie, eh bien, l'Église catholique et l'Église chrétienne en général, en suivant ce modèle-là, en n'étant pas fondée sur la confirmation de la raison, eh bien, ils ont suivi. Et l'Église catholique disait, en premier, il faut faire l'ascèse du corps. Faire des pèlerinages, il faut mettre des cailloux dans les chaussures, il faut brimer son corps, etc., se flageller, etc. Parce que ça vous donne l'entrée au ciel. Voyez. Et ça, ça vient de ça. C'est cette croyance. Voyez. Or, vous voyez, le modèle que nous propose la parole de Dieu, c'est que le corps, c'est une création de Dieu. Et il a prouvé que le corps n'était pas mauvais puisque Jésus est ressuscité dans un corps. Et c'est pourquoi Paul a été rejeté dans son argumentation à Athènes, que nous aussi on est rejeté quand on prêche ça, parce qu'en fait c'est beaucoup plus, je dirais, je sais pas si c'est sexy, mais voilà, de croire ça, hein, de croire ça, et les gens accrochent plus en disant oui, tout ce qui n'est pas du corps est parfait, parce qu'effectivement le corps il est imparfait, etc. Mais le problème c'est que Dieu a prévu que les choses vont changer. On est dans une dynamique, on est dans une eschatologie dynamique. Et là c'est le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que cette dynamique est que Dieu a prévu que notre être tout entier puisse servir à sa gloire de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de progresser. C'est pour ça que la vie chrétienne est un progrès, mais qui continuera même après notre mort. La progression. Pourquoi ? Parce que Dieu est infini. Dieu, on ne peut pas le saisir. Dieu, il est créatif à l'infini. Et nous continuerons jusque dans l'éternité à être dans cette créativité de Dieu. C'est pas fantastique ? Tout en ayant encore. Donc tout est racheté. C'est le problème du rachat. Tout est racheté. Dans le christianisme, tout est racheté. Il n'y a rien de mauvais en soi. Il y a un temps, effectivement, en ce moment, il y a la souffrance, il y a la maladie, il y a tout ça. Mais Dieu prévoit, dans sa grâce, si on se confie en lui, de nous garder. Mais il a prévu un temps dans ce devenir où cette expérience, qui est l'expérience par la puissance du Saint-Esprit, va non seulement transformer notre corps, mais nous faire progresser de progrès en progrès, et toute l'éternité, on ne sera pas statique. L'éternité n'est pas statique. C'est qu'on découvrira les merveilles de Dieu en permanence parce qu'il est créatif par nature. En lui, il y a la création. Amen. Voilà, donc la foi, il ne faut pas la voir comme quelque chose qui concerne le spirituel ou l'invisible. La foi, c'est une confiance en Dieu qui transforme notre être tout entier, esprit, âme et corps. Romains 12, qu'on vient de lire. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, j'ai découvert encore quelque chose d'assez étonnant, c'est que la Bible elle-même, alors j'en veux pour preuve dans ma Bible du Thomson, hein, ceux qui l'ont, vous l'avez. Vous avez dans la première page, vous avez la composition des livres de la Bible. Okay. Alors, la composition des livres de la Bible est la suivante. Il y a la Torah, le Pentateuque. Le Pentateuque, donc c'est les cinq premiers livres, eux, ils fondent Il fonde la nature de la révélation. La révélation des origines. Révélation de Dieu de tous les patriarches, et en particulier Moïse, pour établir le peuple, etc. Ça, c'est le fondement. Le fondement scripturaire qui est la base. Et tous ceux qui, dans les traditions ici, ont d'autres traditions, eh bien, ils mettent en cause ces origines qui sont dans le Pentateuque. Et d'ailleurs, même l'Église catholique, Michel le connaît bien, ça fait 25 ans qu'elle travaille avec eux, effectivement, ils ont du mal à croire que la Genèse décrit une réalité, et ils disent que c'est un mythe. Donc on cherche à décrire un mythe. Un mythe, c'est quelque chose qui se passe, mais hors du temps, mais qui est symbolique. Mais bien sûr, c'est difficile de croire que Dieu a révélé les choses à Moïse dans la Genèse telles qu'elles sont. Et c'est pour ça que Hébreu dit « La foi, c'est de croire que le monde a été créé par l'invisible, par Dieu lui-même, par sa parole, par les choses invisibles. » Donc là, c'est le Pentateuch, la Torah. Ici, la tradition, c'est les livres historiques. Hein, vous voyez, vous avez des livres historiques, Rois, Chroniques, Esdras, Néhémie, etc., etc. Et ces livres historiques présentent des hommes et des femmes qui ont vécu, d'une certaine manière, avec des défauts, avec des erreurs, avec des victoires, etc. Et ça, ça fonde cette tradition. Et c'est pour cela, Paul dit, vous avez une nuée de témoins autour de vous, et suivez-les, parce que vous faites partie de cette nuée de témoins. Donc, c'est un démarrage, une origine dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous marchons. Ici, c'est le livre prophétique. Le livre prophétique, donc c'est Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, et tous les petits prophètes, Amos, Abias, Zacharie. Les livres prophétiques, il parle d'un accomplissement, de quelque chose qui va s'accomplir, qui n'existe pas encore, qui va s'accomplir. Alors il y a des choses qui se sont accomplies en Jésus à la croix, donc c'est le centre de l'histoire, mais il y a d'autres choses qui vont encore s'accomplir, qui ne se sont pas encore accomplies. La preuve, c'est qu'en 1948, la création de l'État d'Israël n'existait pas en l'an zéro, puisqu'on a attendu 1948 pour voir l'État d'Israël, une prophétie, enfin plusieurs prophéties qui se sont réalisées. Et il y en a d'autres qui sont en train de se réaliser. Donc vous voyez, nous sommes dans une histoire dynamique, prophétique. Et nous sommes une église prophétique. Et nous ne sommes pas statiques, nous sommes dynamiques. C'est pour ça que le chrétien doit être dynamique dans sa vie et dans sa communauté. Et enfin ici, nous avons quoi comme livre ? Alors, il y a une quatrième série de livres qui s'appelle les livres de... Il faudra qu'on fasse une expo Bible. C'était très très bien présenté. J'ai un peu chaud là. Hello, je vous écoute. Waouh ! Je ne pensais pas poser une colle. Oui, oui, il y en a qui... Pardon ? Oui, oui. Alors, dans le livre de Thomson, c'est marqué poétique, mais en général, c'est sapienso. Sapienso, je ne sais pas si c'est du latin ou du grec, d'ailleurs. Sapienso, sagesse, livre de sagesse. Ça peut être poétique, il y a un élément poétique. Cantique des cantiques est poétique, les psaumes sont poétiques. Mais en fait, ça s'appelle, dans la théologie, les livres de sapienso, les livres de la sagesse. Voilà. Alors, dans ces livres de sagesse, c'est Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et ça, c'est pas les chrétiens qui les ont catégorisés, c'est les juifs. D'ailleurs, souvent, on ne les a pas présentés pareil. Vous avez vu que les Bibles, les livres sont mélangés, mais ils ne sont pas sous ces catégories. Mais les juifs, ils respectent ces catégories très précisément. Et ces catégories, vous voyez, présentent la foi avant Jésus-Christ de cette manière-là, dans quatre dimensions, et les évangélistes présentent la vie et le modèle de Jésus sous ces quatre dimensions aussi. Incroyable. Et la sagesse, la raison, est là comme un pavé dans la mare. Et quand vous lisez Proverbe, c'est incroyable comment Proverbe insiste sur la sagesse, sur la raison. Utilise ta raison. Utilise ta sagesse. Pourquoi ? Et là, on est en plein dans la vision RNC. C'est pour ça qu'on se retrouve en plein dans notre famille, qui l'exprime peut-être différemment que ce que je fais là, mais pour montrer qu'on est enraciné. Si on n'est pas enraciné en tant que chrétien, comme des gens qui utilisent notre raison, nous n'avons aucune crédibilité dans notre témoignage. Nous pouvons être utilisés par le Seigneur, au passage, bien sûr, il utilise tous les chrétiens, il ne fait pas cas de quoi que ce soit, le Saint-Esprit peut tomber. Mais si nous voulons être crédibles, et vous remarquez que tous les chrétiens qui ont impacté la société par le christianisme, c'est dans ce domaine qu'ils ont impacté la société. Que ce soit la Croix bleue, la Croix rouge, l'Armée du Salut, toutes les pasteurs qui ont découvert, tous les chrétiens qui sont engagés, leur foi transforme la société. Et ce serait grave de penser autrement, parce que ça veut dire qu'on se prend pour des anges. Si vous enlevez cette partie-là, vous pensez qu'au ciel. Vous pensez qu'aux choses spirituelles, vous pensez qu'aux choses qui sont dans l'invisible. Et vous devenez des zombies. Les gens vous prennent pour des zombies. Vous n'êtes pas de chez eux. Vous ne faites pas partie d'eux. Or, nous devrions être les premiers, et d'ailleurs Billy Graham a commencé à le dire, ma belle-mère, la mère de Michel, qui n'avait pas beaucoup d'instructions dans les assemblées de Dieu, il fallait plutôt être, je ne vais pas dire ce qu'ils ont dit, mais pas trop dans ce côté-là, ou pas du tout. Mais elle a écouté Billy Graham, qui disait non, il faudrait que les chrétiens soient engagés dans les conseils municipaux, qu'ils soient engagés dans les entreprises, qu'ils soient engagés, vous voyez. Et il avait la parole juste, qui a été perdue pendant des siècles et qui a dû revenir et que Wesley a prêché. L'armée du salut est ici directement du méthodisme au 19e siècle et bien d'autres. Wilberforce, qui a aboli l'esclavage, était aussi méthodiste et une application directe du méthodisme. Voyez-vous, ici la raison qui confirme la foi. Vous prenez Romains. Vous prenez l'épître aux Romains, extraordinaire. Paul, il en parle avec une grande, grande magnificence dans ce domaine. Il dit, je suis dans les Actes, ça ne peut pas marcher. Dans Romains chapitre 1, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel comme contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien dans la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Quand vous regardez la création, vous voyez, on est sur la terre. Là, c'est les choses visibles. C'est les choses invisibles. Où justement, quand on sort de la révélation et quand on rentre dans le monde angélique, là, c'est très très mauvais et très grave parce que vous savez plus ce que vous faites, c'est interdit par la Bible. Ici, dans la création des choses du monde, la terre entière montre la gloire de Dieu. Quand vous regardez tout ce que Dieu a fait, vous regardez les documentaires, c'est extraordinaire. Et comment est-ce qu'on appréhende cette gloire et cette magnificence de Dieu? Je suis sûr que Philippe a la réponse. Comment est-ce qu'on l'appréhende? Quel est l'outil avec lequel on appréhende cette magnificence de Dieu? Est-ce que c'est la foi? Non, je vous pose la question. Pardon? Non, mais je sais que vous n'osez pas le dire, le mot. C'est la raison. C'est la raison. C'est l'intelligence, c'est la raison. Vous savez comment on fabrique un télescope? Là, je crois que le plus grand télescope est en Chine. Il peut voir à des milliers d'années-lumière des choses très loin. C'est l'intelligence humaine. Soyons clairs. Nous ne sommes pas des zombies. C'est par la raison. Il faut que la raison soit renouvelée dans l'intelligence de Dieu. Mais c'est par la raison. C'est que la raison permet d'appréhender les merveilles de la création visible. Visible de Dieu. Et c'est là qu'on en vient à la confirmation de la raison qui doit confirmer la foi, qui doit confirmer les Écritures. C'est qu'en fait, il y a deux manières d'utiliser la raison. Il y a une logique qui est inductive et une logique qui est déductive. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est utiliser la logique inductive, y compris quand vous lisez la Bible. La logique inductive, c'est la démarche scientifique qui est l'observation. Vous observez, vous décrivez. Plus vous décrivez les choses, plus vous allez trouver les merveilles de Dieu. Ensuite, après, vous pouvez faire des hypothèses. C'est la puissance de l'intelligence de faire des hypothèses. Voilà. Et ensuite, après, vous faites des expériences et vous confirmez. Confirmation. Voilà. Ça, c'est la logique inductive. Et vous faites ça autant de fois que vous le faites, ça c'est les scientifiques, hein. Et parfois il y a des scientifiques qui mettent toute leur vie à trouver. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent une loi, qui est la loi que Dieu a créée, qu'il a placée dans la nature, et qui fait que ça fonctionne, qu'on ne reçoive pas le ciel sur la terre. Vous voyez, au départ on pensait que la terre était plate, machin, etc. Maintenant on sait que la terre est ronde, qu'elle tourne autour du soleil, mais tout ça on ne le savait pas, hein. C'est des choses qu'on a découvert au fur et à mesure par l'intelligence, par la raison. Et si effectivement l'Église catholique avait suivi ce modèle wesleyen, elle n'aurait pas mis Galilée. C'est Galilée qu'ils ont mis au bûcher. Voilà. Non, parce que des fois je suis dans d'autres trucs et puis je dis un truc qui est faux. C'est mis Galilée, hein. Voilà. Ils n'auraient pas mis Galilée, puisque lui, il a découvert la loi qui est juste. C'est la loi qui glorifie le Seigneur, qui permet de fonctionner. Voilà. Donc, vous voyez, faites attention. Il faut qu'on reste dans une logique inductive. La logique déductive, c'est quoi? Pour être court et rapide, c'est la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, c'est une théorie. Pas du tout, elle n'a jamais été confirmée. Alors, vous ne pouvez pas confirmer les choses en l'origine et à la fin. Dans ce domaine-là, vous ne pouvez jamais utiliser la démarche scientifique. Voyez. Sur cet axe-là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que l'origine, vous ne pouvez jamais faire une expérience de l'origine, hein, et vous ne pouvez jamais faire une expérience du futur. Donc, c'est dans ce domaine-là et uniquement ici, et pas là. Parce que là, c'est l'invisible, vous ne pouvez pas vérifier. Voyez. Donc, la théorie de l'évolution, c'est une croyance qui est posée, et on va tout faire converger. La raison va dire, voilà, c'est pour cela que l'homme descend du singe. C'est pour ça que les poissons qui avaient des pattes n'en ont plus, patati, patata, etc. Vous voyez, les théories, ça c'est déductive. Il y a beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible de manière déductive. Vous voyez, et ça c'est grave. C'est-à-dire quand ils ont un a priori sur quelque chose qu'ils voudraient qu'il se passe dans la Bible, parce qu'ils l'ont hérité de leur culture, ils l'ont hérité de leur religion, ils l'ont hérité, etc. Mais ils sont dans cette logique déductive. George Endenland, que je cite, toute sa théologie est basée sur une logique inductive. On laisse parler le texte. On laisse parler le texte. On peut avoir une hypothèse, mais si le texte à un autre endroit, alors bien sûr c'est un travail très très long de vérifier à un autre endroit dans la Bible, l'écriture seule, permet de confirmer, on dit ok, ça peut être une loi spirituelle que Dieu a établie. Et c'est comme ça qu'il a découvert que l'évangile de Jean n'est pas du tout un évangile gnostique, mais c'est un évangile qui contre le gnosticisme. C'est-à-dire que les éléments grecs de ce langage, ciel, terre, etc., que vous voyez, qui ne se retrouvent nulle part ailleurs, il semblerait, ça c'est une hypothèse, que Jésus ait employé ce langage pour les apôtres dans l'intimité ou avec les sadducéens, par exemple, qui étaient tendance grecque, pour démonter leur système de valeurs. Et Jean a été au contact de cette intimité avec Jésus. Rappelez-vous, c'est le disciple qui posait sa tête sur le cœur, sur l'épaule de Jésus, et qui aurait effectivement eu cette possibilité de parler de ces choses qui sont tordues par les hommes, et qui ont une réelle puissance. Et c'est pas étonnant que ça touche le domaine de la raison et le domaine de ce que nous vivons sur la terre. Ici, on est dans l'histoire, ici, on est dans le spirituel, ici, on est des chrétiens engagés dans la vie de tous les jours, dans la vie. Et le Seigneur veut renouveler notre raison, notre intelligence. Et il le fait. Et il permet même ceux qui sont dans la recherche de découvrir. Il y en a beaucoup qui ont découvert des formules simplement par révélation. Et ensuite, après, vous voyez, la révélation. Et ça, on veut l'utiliser aussi dans le domaine de la relation d'aide, vous voyez. Quand vous faites des hypothèses en relation d'aide, parfois vous tournez avec une personne pendant une journée. Par exemple, Andrea Wigglesworth, qui nous a aidés ici beaucoup dans l'Église, qui est engagée dans la relation d'aide au niveau de l'Église d'Écosse. Eh bien, elle est chargée de faire la relation d'aide. Elle dit, parfois quand c'est trop long, j'utilise la prophétie. C'est-à-dire, ici, au lieu de faire une hypothèse, le Seigneur me montre quel est le problème de la personne, et hop, je peux aller directement. Voyez. Et donc, nous aussi, on veut aller dans ce sens-là, avec Elijah House Ministry en particulier, qui développe le domaine prophétique dans la guérison intérieure et dans la délivrance. Voilà. Donc, ça vous donne aussi une idée pourquoi, dans quel sens nous allons au niveau de l'Église, et pour tous les outils qui sont basés sur ce modèle de quadruple de la foi. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, ici, on est dans ce modèle que Wesley a développé sans le savoir, enfin sans le savoir, inspiré par Dieu, parce que, en fait, il y a une explication, parce qu'il était d'une famille où la mère, Suzanne, était une femme extrêmement méthodique, qui a aidé ses enfants, et en particulier John et Charles, parce qu'ils étaient deux frères, hein, et Charles était de la même teneur que John, sauf qu'il était plus porté sur les chants, la poésie. Ils ont écrit 9000 chants à l'époque, qu'on chante encore pour certains aujourd'hui, hein, de louanges. Et ils étaient au bénéfice de cette mère, qui était très méthodique dans sa foi. Et du coup, elle a transmis cette méthode. Vous voyez, John Wesley, par exemple, au départ, avant qu'il ne se convertisse dans cette expérience spirituelle, 1738, ses livres de chevet, c'était Madame Guyon, c'était Les Mystiques, c'était Toller, c'était tous les mystiques qui veulent l'union mystique avec Dieu. C'était son. Et plus tard, il écrira en disant « J'ai failli faire naufrage ». Avec ses enseignements. Oui. Parce que le mysticisme qui cherche l'union avec Dieu, c'est en dehors de cet équilibre. Une sorte d'équilibre, si vous voulez, où tous les quatre doivent être utilisés. Mais si on n'utilise pas la raison, on devient fidéiste. Dès qu'on rejette la raison, et on devient spirituel, et on n'est plus compris par le monde. Il faut carrément aller dans les monastères pour vivre ça. Hein. Ou si on ne vit pas dans les monastères, c'est peut-être l'asile qui nous attend. Hein. Parce que voilà, il n'y a plus de raison. Ici, si on développe la raison, bien on devient rationaliste et on rejette la foi. Okay, c'est le propre de la civilisation et des humains en France, hein, où on a le pompon de la raison qui est déifiée. La tradition, sinon aucune tradition, on devient individualiste. Et on croit qu'on est les premiers à découvrir des choses et on met toute notre vie à découvrir des choses qui sont données par notre tradition. Tradition hébraïque, tradition évangélique, les apôtres apostoliques, tradition des pères de l'Église qui disent la même chose. Tradition. Les orthodoxes sont très bons. Ils n'ont pas été pollués pour certaines choses, comme le catholicisme et tradition des quatre évangiles. Donc toutes ces traditions nous aident et l'expérience, bien sûr, est absolument fondamentale. Il faut chercher l'expérience. Mais toute expérience n'est pas bonne, il faut toujours la vérifier par rapport aux Écritures pour que cette expérience ne nous emmène pas justement dans des travers. Et la raison, qui est une raison saine, qui confirme la foi, qui est une raison intelligente, qui nous permet... Jésus a utilisé la raison. C'est grâce à la capacité de Jésus, de sa raison, de son intelligence, qu'il a pu contrer les pharisiens, il a pu contrer les sadducéens, il a pu reprendre ses disciples, il a pu développer un enseignement. C'est la raison qu'il lui a donné. Paul, ne parlons pas de Paul, Wesley, je ne sais pas combien de langues il parlait, c'est un homme d'une très très grande intelligence, et qui a pu développer tous ces messages. Et on dit, et je crois que c'est vrai, que grâce à John Wesley, l'Angleterre n'a pas connu la révolution comme la révolution française, ça s'est passé au même moment, la révolution française, il n'a pas connu parce qu'il s'adressait aux plus pauvres des pauvres dans les mines où l'Église ne s'occupait pas. L'Église anglicane ne voulait pas s'occuper des mineurs. Et c'est lui qui s'en est occupé avec Whitfield, avec Charles Wesley, etc. Et il a apporté l'évangile à cette catégorie. Il a empêché que l'Angleterre vive. Donc vous voyez, on peut changer l'histoire. On peut changer l'histoire. On peut transformer l'histoire. On peut être un vecteur de l'histoire d'une nation tout entière. Le Seigneur peut nous utiliser et il veut nous utiliser. Et ça, ça donne du sens. Ça donne du sens à notre vie. Amen. Nous ne sommes pas là juste dans l'antichambre pour attendre le ciel. Nous ne sommes pas là juste dans l'antichambre pour attendre la fin ou le retour de Jésus. Ou ceci ou cela, ou la fin du monde. En 2012 ou maintenant, je ne sais pas, il faut changer les dates à chaque fois. Et non. Nous sommes là pour glorifier Dieu. Amen. Dans notre être tout entier, corps, âme et esprit. Ça, c'est le défi, c'est le challenge, c'est la pensée de Dieu, c'est le projet de Dieu, c'est ce qu'il a prévu dans sa grande... Et c'est pour ça qu'il veut une relation avec nous, parce qu'il veut nous utiliser et pour que nous puissions le servir à sa gloire. Amen. Seigneur, nous te prions que ces réalités que tu m'as montrées puissent vraiment, Seigneur, être développé par chacun de nous dans l'Église et que chacun, Seigneur, à sa place, puisse être, Seigneur, ce chrétien qui est rempli de ta présence et pour comprendre, Seigneur, que la foi, c'est l'ensemble de ces quatre choses qui sont déployées et développées, Seigneur, dans une dynamique de l'esprit. Seigneur, merci parce que tu veux nous aider à changer notre mentalité, à changer notre façon de voir les choses, parce que nous sommes influencés par le monde à voir autrement. Mais Seigneur, toi, tu es le Dieu des miracles et des changements. Et nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour ces modèles que tu nous as donnés dans ta parole et dans l'histoire de l'Église. Et nous te prions de pouvoir nous aider à les mettre en pratique au quotidien. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.